Salut Mélissa, comment ça va ?
Salut Sandrine, ça va et toi ?
Oh bah super. Alors on va parler de quoi aujourd'hui ?
On va parler de management.
Et alors management, ça fait un lien incroyable parce que le précédent épisode, nous avons parlé de l'appartenance à l'entreprise et ce qui est sorti,
oui,
majoritairement, on parlait de management. Et donc en plus, on a la joie, l'honneur...
L'honneur, j'allais dire en plus.
D'avoir une invitée... Incroyable.
Ouais.
Véronique.
Oui.
Elle est là.
Oui, bienvenue.
On est ravis que tu sois avec nous. Et ben on va te laisser te présenter. Et puis on va parler de quoi ? De
management.
Super.
Paraît-il que c'est le thème. Alors moi je suis ravie aussi de faire partie de cette expérience avec vous, ô combien riche et enrichissante. Alors, je suis Véronique Rosset, donc j'ai été manager d'entreprise pendant 30 ans et maintenant, je suis depuis une dizaine d'années indépendante, commerçante, et je suis présidente de l'Association des commerçants du pays Oudanais. Et c'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés.
Effectivement.
Et donc, du coup, vous l'aurez compris, Véronique fait partie de ma... génération, donc la génération X.
X. Ouais. X.
Mais Véronique a aussi une telle expérience et ouverture d'esprit qu'elle va nous raconter un peu tous les changements qu'on a pu constater au fil des années sur comment manager ses équipes.
Alors, je dirais que le manager, il a beaucoup évolué en même temps que l'entreprise a évolué. C'est-à-dire que moi, j'ai d'abord eu un management quand moi, je n'étais pas encore manager. On en parlait d'ailleurs de façon très spontanée hier. C'était rigolo parce que ça faisait exactement la transition avec aujourd'hui. J'ai connu le management très descendant, c'est-à-dire un patron, un demi-patron bicéphale en dessous et après des tas de petits sergents, chefs, sergents, lieutenants... qui servait à prêcher la bonne parole. Et il n'y avait pas du tout transverse. Et au fur et à mesure du changement de l'entreprise, moi j'ai eu la chance de travailler pour une société américaine, hein, donc un laboratoire pharmaceutique américain qui employait déjà des types de management qui étaient beaucoup, beaucoup plus novateurs que ce qu'on pouvait... utilisés en France dans les grands groupes français jusqu'alors et qui, eux, ont commencé, par exemple, le tutoiement dans l'entreprise. Mmh. Moi, le tutoiement dans l'entreprise, je l'ai connu déjà à partir de 1994. Donc, c'était des gens très novateurs, c'est-à-dire que du PDG de l'entreprise jusqu'à la personne qui mettait le café dans la machine à café, tout le monde se tutoyait et on s'appelait par nos prénoms.
Est-ce que, du coup, il y avait un manque de respect ?
Pas du tout.
Voilà.
Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que moi, j'ai commencé à manager dans les années 91-92, et moi, je suis méditerranéenne. Et dans les années 91-92, j'étais une toute jeune femme, et donc je tutoie, c'est dans mes gènes, je tutoie très facilement. Et qu'est-ce qu'on a pu me reprocher ? Que le fait de tutoyer, ça ne donnait pas assez de distance avec les équipes, etc. Et comme c'était dans mon ADN, j'ai jamais changé alors le tutoiement, mais c'était tellement mal vu. Et ce management dit participatif, on introduisait le tutoiement. Et pour moi, au début, c'était compliqué parce que je me disais, mais je fais mal. Et comme je ne pouvais pas faire autrement que de le faire de manière naturelle, donc je suis restée avec un tutoiement facile. Mais je me posais souvent la question en disant, mais... si je ne tutoyais pas, est-ce que je serais un peu plus respectée ? Bon, l'histoire ne le dira pas parce que je n'ai pas changé, mais effectivement, c'était quelque chose d'assez nouveau et pas très bien perçu dans nos organisations européennes ou en tout cas françaises.
Alors, c'est vrai que pour eux, les Américains, ce qui change tout, c'est le « you », le « you » qui veut dire le « tu » et le « vous ». Et donc, en France, ça s'est naturellement transposé par le « tu ». Et ça ne posait franchement aucun problème. Donc, on s'appelait tous par nos prénoms. Il n'y avait jamais de monsieur et madame. Il n'y avait que des prénoms, à tel point que parfois, on ne connaissait même pas le nom des gens à qui on s'adressait, ce qui pouvait parfois être un peu embêtant, surtout à l'époque où le mail est arrivé, où il fallait avoir le nom des gens pour leur adresser un mail. Et je me souviens de petites anecdotes cocasses où on se disait, bah d'accord, elle s'appelle Sandrine, mais Sandrine comment finalement? Parce que moi, j'ai toujours appelé Sandrine et je l'ai toujours tutoyée. Donc, on avait fait des organigrammes spéciaux pour se dire à qui on s'adresse avec des petites photos juste à poser. Enfin, c'était toute une organisation. Mais en rien, il y avait un différentiel de respect. C'est-à-dire que le respect s'imposait parfois dans la fonction, effectivement, où on se disait, ben, effectivement, quand je vais m'adresser à telle ou telle personne, même en la tutoyant et l'appelant par son prénom, le respect va s'imposer de lui-même. Et le respect, je dirais, se mérite. Et ça, c'est un autre sujet de notre débat, certainement.
J'espère.
Donc, tu as connu le management qui venait des États-Unis. Alors, pour l'instant, on ne peut pas dire bien ou pas bien. Et après ?
Et après, moi, j'ai travaillé dans des boîtes pour moi, où j'ai donc à manager des équipes. Et donc, j'ai complètement transposé ce que je connaissais. C'est-à-dire que de chercher les ressources à travers les gens et ne pas imposer ma solution, mais essayer de faire trouver la solution. Et pour moi, c'est ça la clé du management.
Et est-ce qu'en tant que chef d'entreprise, tu as vu une différence en appliquant ce management-là par rapport à avant où tu étais collaboratrice dans une entreprise? Parce qu'il n'y a plus les mêmes enjeux.
Il n'y a plus les mêmes enjeux, c'est ma boîte à moi. J'ai parfois tendance, et je me reprends quand j'ai trop tendance, à chercher la solution plus rapide parce qu'il faut être plus efficient, parce qu'on a moins de temps à perdre, parce qu'il y a de gros enjeux personnels. Et donc, j'ai l'impression que j'essaye d'aller un petit peu trop vite en besogne en disant aux gens, vaudrait mieux faire comme ci, comme ça, on irait plus vite. Ça met à culpa.
Moi, je reviens sur le management qui est arrivé des États-Unis. Et moi, j'ai jamais été managée dans une boîte américaine et j'ai jamais managé à l'américaine, ou alors je savais pas que c'était à l'américaine. Néanmoins, avec un peu de recul et ce qu'on entend ou ce que j'ai entendu, le monde n'est pas si merveilleux que ça dans le management à l'américaine. Il y a le tutoiement, on s'appelle par ses prénoms, mais il y a une forte obligation de résultat et moins d'affect dans des prises de décision. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que c'est...
Tu trouves qu'il y a de l'affect chez nous dans les prises de décision?
Ah ouais, je trouve que l'humain est quand même plus présent, en tout cas dans nos organisations.
Ça dépend où tu vas. Moi, ce n'est pas le cas.
Alors, oui.
Aucun affect, bien au contraire.
Et encore une fois, on est des êtres humains et dans une organisation où moi, je peux avoir trouvé de l'affect, ouais. Peut-être que toi, tu n'en as pas trouvé,
oui.
Parce qu'on est différentes. Mais sur la partie américaine, c'est souvent une souffrance. Alors moi, j'avais des copains qui travaillaient dans les photocopieurs. Alors, c'est une super école. Parce que c'est process, méthode, efficacité, etc. Mais peu de place à l'humain. Est-ce que c'est un mythe, une croyance?
C'est une bonne question.
Alors, je dirais que ce n'est pas une mythe, ni un mythe. Ce n'est pas une croyance, ni une croyance. C'est une vraie réalité. C'est-à-dire que dans les boîtes américaines, il y a d'abord le résultat. D'abord le challenge, le résultat du challenge, etc. C'est toujours la course au dollar de plus. Ça, c'est certain. Et puis, c'est aussi les grands actionnaires. Les grands actionnaires, tous les fonds de pension, c'est américain. Et ça, ça a drivé la façon de la quête du résultat et la quête du Graal en permanence. Ça, c'est vrai que c'est une triste réalité. Je dirais que quand tout va bien, tu ne le ressens pas du tout. Parce qu'en fait, quand tout va bien... tout se passe dans la course folle. C'est comme dans un circuit automobile. Dans un circuit automobile, quand il n'y a pas d'accident au milieu de la piste, tout le monde va vite et ce n'est pas grave.
Dans l'adrénaline.
Et c'est ça qui est bon. Quand il y a des résultats au bout, les salaires sont en adéquation, les primes sont en adéquation. Donc, en fait, tout le monde est heureux. Moi, dans le cours de ma carrière, j'ai eu plusieurs accidents de carrière dus à des fusions d'entreprises. Donc là, c'est là où tout va mal. Mmh. Et c'est là l'accident sur la piste. Et là, c'est le carambolage. Et plus les gens vont vite, plus le carambolage est sérieux. C'est-à-dire que là, les gens, ils foncent tellement qu'ils ne se voient absolument pas face au mur et que là, ça tape fort derrière. Et là, c'est vrai que là, j'ai subi ce genre de management où, tout en se tutoyant quand même, hein, on t'en sort, mais alors là, plein la tête à longueur de journée. Mais sinon, je ne regrette pas. J'ai eu 15 ans de fou à courir. Alors, la planète entière, au sens propre et au sens figuré, par des opérations diverses où il fallait tout tenter. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est le culte du pionnier. C'est-à-dire qu'il faut toujours être les premiers à faire quelque chose. Et si tu veux être premier à faire quelque chose, il faut que tu cours plus vite que les autres. Et donc, en fait, j'ai toujours eu cette culture de courir plus vite que les autres. Et c'est vrai que ça m'a formatée, même aujourd'hui. Hein, j'ai l'impression que d'ailleurs, je vais prendre ma retraite bientôt. Il va falloir que je trouve la pédale de frein, mais je vais la trouver. Et que, voilà, cette course perpétuelle, c'est aussi mon adrénaline. C'est, si tu disais tout à l'heure, mes gènes, eh bien, c'est dans mes gènes. Et ça, je ne l'ai absolument pas perdu. Absolument pas. Mais c'est vrai qu'à contrario, quand ça va mal, et quand là, par exemple... Moi, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique qui est en pleine crise, vraiment en pleine crise, parce que tout ça a été racheté à 100% par les fonds de pension. Donc, ça veut dire que ce sont des actionnaires qui tiennent les manettes et eux, ils ne font pas de management. Pas du tout.
Moi, je n'ai pas connu le management américain. Moi, j'étais dans un groupe de distribution où effectivement, il y avait la possibilité de... On va pas refaire l'épisode sur l'appartenance à l'entreprise, mais il y avait la possibilité de gravir les échelons. Il y avait quand même un respect. On était aussi dans une phase de croissance, donc c'est toujours un peu plus facile. Mais on a toujours eu une forme d'humain ou de relation, d'affect. C'était moins la course à... Et toi, Mélissa, le management ?
J'étais en train de réfléchir pendant que vous échangez sur le sujet par rapport à mes propres expériences. Donc, j'ai connu autant le vrai schéma de la hiérarchie, vouvoiement. Limite, tu fais un salut quand le patron ou le directeur passe, avec vouvoiement, prénom. J'ai connu, mais pas de relation du tout. Enfin, aucune relation, juste un contrat. J'ai connu après, sur ma dernière expérience, le tutoiement. Par contre, grosse évolution en interne dans l'entreprise, mais gros blocage par la suite. Et donc, tutoiement, enfin bref, avec la direction. Enfin. Mais alors là, ça n'a pas du tout fonctionné.
Est-ce que toi, tu as managé ?
Oui, moi j'ai managé, ouais. Des hommes d'ailleurs, je manageais des hommes puisque j'étais dans l'entretien et l'aménagement d'espaces verts. Donc voilà, c'est très masculin. J'étais sur le tutoiement, ils étaient sur le tutoiement vers moi, parce que comme j'ai expliqué dans un précédent épisode et notamment aussi hier lors du débat sur l'appartenance à l'entreprise, c'est pas parce que, pour moi on est une équipe, donc on a des résultats à faire ensemble, on est sur un même niveau, c'est juste qu'on a chacun une mission différente. Et c'est pas parce que moi j'étais directement en contact avec les clients ou que j'étais force de proposition sur des actions, etc., parce que c'est ce qu'on attendait de moi, et que eux étaient en train de, je mets des guillemets, exécuter, parce que j'aime pas trop, mais que je devais me sentir supérieure à eux ou pas. En fait, je partais du principe qu'on était vraiment une équipe, et sans leur travail, moi, je pouvais pas avancer non plus. Donc, c'était plutôt sain, et la preuve en est, ça fait... je suis partie depuis 2020, et j'ai toujours des contacts avec certains de... Enfin, quasiment tous, en fait. parce que bah, y avait vraiment une approche. Par contre, le travail, c'était le travail. Je veux dire, je ne les voyais pas en dehors du travail. Il était hors de question qu'on se voit en dehors du travail et tout ça. Enfin, il y avait quand même ce côté-là. Je ne sais pas si ça résonne en vous quand je dis ça, mais ça n'empêche que le matin, j'allais sur les chantiers avec eux, toujours le petit café pour commencer la journée. Enfin, ça faisait vraiment partie de mes traditions, quoi.
Alors, je pense que les différents types de management, c'est aussi lié aux différents types d'activités. Moi, j'ai managé de nombreuses années et avec l'âge et le recul, je me dis, mais est-ce que j'étais une bonne manageuse ? Je pense que j'ai fait plein d'erreurs parce que peut-être la pression, peut-être, mais que j'ai vécu des belles aventures. Et voilà, j'espère juste que les équipes... j'ai fait de mon mieux, je n'ai pas fait d'école de management. Je l'ai fait toujours un peu à l'instinct. J'ai fait avancer les choses, je me suis certainement ramassée et je n'ai peut-être pas été attentive à certaines personnes dans mes équipes. Je suis passée à côté de certainement plein de choses, mais je l'ai fait du mieux que je pouvais. Par contre, je sais qu'il y a certaines choses que je changerai aujourd'hui, mais ce n'est pas parce que j'ai été formée sur le management entre, c'est juste parce que j'ai une forme de maturité et d'ouverture ou de tolérance un peu différente, mais ça, c'est lié certainement à l'âge. Toi, tu disais que parfois, tu avais l'impression de manager un peu trop vite.
Maintenant. En fait, j'ai l'impression, ta question c'était tout à l'heure, est-ce que depuis, ou la question de Mélissa, c'était depuis que tu as tes équipes à toi, avec tes boîtes à toi, oui, effectivement, l'enjeu n'est pas le même. Donc j'ai l'impression que je veux leur, plutôt qu'ils trouvent la solution eux-mêmes, je veux leur imposer la solution en disant si on fait comme ça, ça ira de toute façon plus vite comme ça. Et ça sera mieux fait. Par exemple, pour quand on fait rentrer, eux, ils ont toujours la soif de faire rentrer des nouvelles gammes de produits, etc., etc. Moi, là, pour le coup, je les freine plus, mais là, je mets mon côté galon devant en disant rendez-vous compte de l'état des ventes d'abord avant de faire rentrer plus. Soyez responsables. Et eux ont tendance à ne pas l'être, mais... c'est pas dans leur fonction non plus. Donc là, j'ai l'impression que je les bloque davantage. Mais sinon, pour en revenir à l'humain, j'ai eu l'impression dans les boîtes américaines qu'effectivement, il y avait un souci de l'humain quand même assez constant. Moi, j'ai eu la chance de travailler beaucoup avec des femmes et des femmes qui occupaient de très, très hauts postes. D'ailleurs, dans les 10 plus hauts postes de labo, donc, j'en faisais partie. Il n'y avait que des femmes.
C'est intéressant en vue de...
C'est tout à fait... c'est étonnant.
Bah, j'allais dire étonnant même.
C'est étonnant. Et encore aujourd'hui, la PDG de Merck France, c'est une femme que j'ai eue, moi, en tant que stagiaire. Donc, si.
Est-ce
donc,
que tu, c'est pour, tu saurais identifier pourquoi ou pas? Parce qu'on ne va pas rentrer sur ce sujet du patriarcat, mais... Il y a quand même une majorité d'hommes qui dirigent des entreprises, notamment au CAC 40, enfin, si on prend les plus grosses entreprises, etc. Alors pourquoi ?
Parce qu'elles sont du CAC 40, la réponse dans ta question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'ouverture. On est quand même un pays latin, on n'est pas des pionniers. Il faut qu'on s'installe. Regarde n'importe quelle chaîne de télévision avec un débat qui a l'air d'un débat. T'as que des mecs autour de la table. Il n'y a pas de femmes. Si, il y a la présentatrice qui fait le blabla entre les deux, mais il n'y a pas de débat de fond. Il y en a très peu. Quand il y a un débat de fond, c'est parce qu'il y a un fait de société. Donc on se dit, il y a un fait de société, on va faire venir une femme. Quand c'est de l'économie, de la finance, etc., c'est que des hommes. C'est comme ça, parce que ben, en France, on est encore comme ça. Et aux États-Unis, alors maintenant qu'il y a Trump qui revient, je ne sais pas ce que ça va donner, mais peut-être pas que du bon. Mais en attendant... moi, le management que j'ai connu, que j'ai vécu, c'était que des femmes. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. C'est parce qu'il y a une force de travail qui est surhumaine et que les femmes trouvent, à mon sens, plus facilement des ficelles pour se sortir des choses que des stratégies hautement compliqué parce que l'homme est stratège, parce qu'il doit garder le camp et le feu, etc. Et que la femme, elle se débrouille toujours pour avoir un petit truc dans la casserole. Et je pense que les femmes sont nées pour la femme, est née pour trouver le petit quelque chose, la petite cueillette. Mais en attendant, peut-être qu'elle n'aura pas le mammouth, mais elle va toujours avoir quelque chose à manger tous les soirs.
La référence incroyable sur les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Donc, merci pour cette référence. Et je ne sais pas si tu te...
Si, je connais.
Tu connais.
Si, mais j'ai adoré l'image préhistorique.
Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que on fait certainement des choses moins glorieuses parce que les hommes sont toujours dans la construction, la stratégie, le truc. Ce n'est pas qu'on ne soit pas anti-stratège, c'est qu'il nous faut souvent des petites réponses. Des petites réponses, chaque petit pas compte, et nous, des petits pas, on en fait beaucoup.
Alors, Véronique, si je peux me permettre, j'entends et je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire, mais il y a aussi une différence majeure, alors pays latin ou pas pays latin, mais il y a une différence majeure parce qu'à un moment donné, nous, on a des enfants, une famille, et que nous, il faut qu'on soit dans l'efficacité. Moi, des réunions à rallonge, et j'en ai tellement connu, où c'était 19h, 19h30, qu'on pouvait plier le truc en un quart d'heure en étant très factuel, 1 plus 1 égale 2, et pas 2,5, et pas 1,5, etc. Et on appuie sur le bouton parce que derrière, on a aussi nos enfants. Quand on a une famille, et nous, on veut un peu tout quand même, hein, travailler, la famille, alors, dans la majeure partie des cas. Et je crois que c'est ce qui nous rend plus efficaces.
Après, oui, bien sûr, on a plein de choses à on jongle avec plein de choses et avec un naturel qui est beaucoup plus souple. Et on a plein de choses à penser en même temps, alors que le monotâche masculin, c'est « je m'occupe de ça », etc. Ça, c'est évident, mais je pense que ça, c'est dans notre culture de femme, de se dire « ben oui, effectivement, on va jongler à plein de choses ». Et justement, quand j'ai vécu ce type de management, moi, je me suis retrouvée avec une équipe féminine à 100% que je n'ai pas choisie, qui m'a été offerte. J'ai trié après, bien sûr, en fonction de mes affinités, etc., et de mon bon vouloir. Mais il n'empêche que j'ai quand même une équipe 100% féminine qui est venue pour parcourir des distances complètement dingues. Mais pour revenir aussi à la question d'hier, enfin, au sujet d'hier soir, du bien-être, où on parlait du bien-être au travail, etc., où je leur ai offert une qualité de vie alors que c'était des femmes qui partaient du lundi au vendredi de chez elles. Donc je leur ai offert une belle voiture de fonction qui soit confortable, sécure, quand elles avaient leurs enfants aussi puisqu'elles s'en servaient le week-end. Je leur ai offert des hôtels, des minimum 3 étoiles pour pas qu'elles se sentent insécurisées dans les hôtels et surtout embêtées dans les hôtels. J'ai voulu vraiment des conditions de vie pour ces femmes qui soient dignes de leur vie de femme, de mère, d'épouse. C'est pour moi, c'était une obligation. Et ça a été un type de management où moi, je me suis battue avec ma hiérarchie pour tout ça. Parce que ça coûtait 3 fois plus cher d'avoir cette équipe-là, mais je l'ai exigé. Et là-dessus, j'ai sorti vraiment toutes mes griffes pour pouvoir leur obtenir tout ça. Et pour rebondir sur ce que tu disais, c'est encore des gens que je vois aujourd'hui.
Ah,
bien sûr. C'est trop bien. Et j'ai des nouvelles de gens aujourd'hui qui ont d'autres parcours, mais c'est des filles que j'ai tout le temps.
C'est bon. Ouais, c'est pour info, moi aussi, j'ai toujours plein de contacts et y en a même qui font partie de ma sphère privée maintenant. Mais même si j'ai pas toujours été une super manageuse. En tout cas, quels que soient les métiers ou le domaine d'activité, me concernant, j'ai trouvé que le management, c'était la partie la plus difficile de mon métier. C'était là où j'étais alors toujours pleine d'assurance, on sait prendre des décisions, appuyer sur des boutons. Sauf que manager, c'était... Moi, j'ai pas trouvé ça très aisé et je me suis... Et aujourd'hui, je travaille seule et je ne souhaiterais plus manager une équipe. c'est tellement énergivore pour un résultat hypothétique qu'on ne maîtrise pas, même si on est la meilleure manageuse de la planète, où on a fait des cours et a appris des réflexes. C'est quand même, je trouve que dans l'entreprise, manager ses équipes, c'est le poste le plus difficile parce qu'on est dans l'humain.
Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est de la gestion humaine. Donc à partir de ce moment-là,
et là,
c'est complexe.
Bah, c'est super complexe parce que un management descendant, comme on pourrait connaître et qui existe encore, ça matche bien avec des personnalités et ça matche moins avec d'autres personnalités. Dans la façon dont je vais échanger ou si admettons on travaille de manière collective, il y en a que ça va complètement perturber. Et d'autres, si on travaille de manière descendante, ils ne vont pas comprendre non plus. Donc on est toujours en train de jouer et on est dans l'empathie et dans l'écoute de l'autre. Et parfois, ce qui me faisait peur, c'est d'en perdre moi ce que j'avais besoin de faire pour l'entreprise ou pour la mission pour laquelle j'étais rémunérée.
Alors, je suis totalement raccord avec toi. Ce qui est, à mon sens, difficile, c'est que l'entreprise, généralement, elle te demande des chiffres, des résultats. On est constamment dans le chiffre, dans l'obligation de résultats. Malheureusement ou heureusement, derrière le chiffre, il y a des hommes. Tu pourras toujours parler de chiffres à des hommes, tu ne pourras pas toujours parler à des hommes de chiffres, parce que tu as des gens qui ne vont pas fonctionner comme ça, qui vont être plus dans le bien-être. Pourquoi tu as choisi ce poste? Pas parce que je veux avoir 100 000, c'est parce que je m'y sens bien. Mmh. Et là, dans ces cas-là, tu es plus dans le confort. Et toi, quand tu es manager, tu as 10, 15, 20, 50 personnes, tu vas avoir 10, 20, 50 personnes différentes. Et toi, tu vas être juste le chef d'orchestre de tout ça. Mais au-dessus du chef d'orchestre, tu as une direction qui va mettre... Et toi, tu es la suspension qui est sans cesse en ballottage entre les décisions du haut, la force du bas qui te dit « Oui, mais moi, pour me sentir mieux, ou qu'est-ce que je peux faire pour mieux ?» Donc, en fait, tu vas avoir ces tas de questions, ces tas de positionnements auquel il va falloir que tu t'épouses un maximum pour que chaque rouage marche. Parce que pour moi, le management, c'est un rouage. C'est-à-dire que si tu veux que effectivement ton rouage et ton système fonctionnent et que tout le monde turbine en même temps, il va falloir mettre tout le temps de la graisse pour que ça coulisse bien et que les choses se passent bien, etc. Jusqu'à ce qu'il y ait un moment, il y a un système dans ton rouage, il va falloir rapidement l'analyser pour rapidement te dire, là, il y a un truc qui coince, avant que ça s'aggrave sur l'ensemble de mon rouage, il faut d'abord soigner cette petite chose-là. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut être à l'écoute, à l'antenne de plein de gens, et que c'est jamais difficile, tout en ayant la pression du dessus et la pression du dessous, qui est le résultat où il faut que tu bouillonnes en dessous, parce que tu as un résultat collectif à avoir. Les managers, quand ils ont fait dans le vertical beaucoup, alors ce qu'ils voyaient il y a plus d'années, mais qui existe encore, et on en a parlé hier avec un de vos jeunes qui travaille dans la grande distrib, c'est des gens aussi qui ont parlé de l'appartenance à l'entreprise, mais le fait que des gens de différentes entreprises arrivent au sein de ton entreprise, ça te fait voir plusieurs cultures. Et donc, il y a du multiculturalisme et c'est vachement bon parce que c'est enrichissant. Et par exemple, un manager dit, moi, là où j'étais avant, on ne faisait pas comme ça, on fait comme ça. Et donc, naturellement, tu allies plusieurs capacités et c'est encore mieux. Son manager qui lui disait jamais merci, etc., je lui ai dit hier, mais lui, on ne lui dit jamais merci non plus. Donc, il se dit, de toute façon, moi, on ne me dit pas merci, je ne veux pas dire merci. Celui d'en dessous ne dira pas merci. Et puis voilà. Et puis tout le monde va continuer comme ça et ça va se passer. Et comme de toute façon, c'est un peu de la chair à canon quand même, ça se passera. Voilà. Et si ce n'est pas toi, demain, ça en sera un autre. Et je pense que, comme un peu ce management vertical, les gens n'étaient pas formés au management. Ils étaient là, t'as progressé, on en parlait aussi avec Olivier, il disait, on est toujours là pour être plus haut, plus haut. Et t'as des gens qui étaient de très très bons exécutants, de bons ouvriers, de bons contremaîtres, pouf, tout d'un coup, tu les passes chef d'atelier. Oui, mais lui, il n'a jamais été chef d'atelier. Il ne sait pas ce que c'est. Il sait que lui, il travaillait à telle ou telle cadence. Et pourquoi les autres ne travailleraient pas à telle ou telle cadence? Mais peut-être parce qu'ils n'ont pas trouvé le rythme. Et il faut juste adapter les gens au rythme. Et tout ça, bah, ça prend du temps. Il faut écouter, il faut observer. Et quand tu as bah, le chef d'atelier du dessus qui te dit « Pourquoi ça ne marche pas aussi vite ?» Tu ne peux pas lui expliquer. Donc, tu joues la schlag. Et c'est uniquement ce... C'est des réminiscences de choses que tu as vécues.
Et c'est tout à fait... Voilà, j'abonde. Alors, ce n'est pas parce qu'on est de la même génération que...
Pas du tout.
On est toujours d'accord. Hein. effectivement, le management... Souvent, il y a des personnes qui souffrent d'un management, mais parce que c'est un management qui est adapté à un secteur d'activité aussi. Hein. En fonction des secteurs d'activité, les exigences sont différentes. Et parfois, les personnes qui sont en souffrance dans un secteur d'activité avec un management qui est adapté à ce secteur-là, c'est peut-être que eux, c'est qu'entre l'entreprise et le collaborateur, ça n'a pas matché. Et c'est là où il faut faire très attention dans le management, de rien ramener à la propre personne. Il faut remettre dans un contexte. Et si la personne, elle est en souffrance, c'est qu'elle est en souffrance parce que peut-être que l'entreprise n'est pas adaptée pour elle. Moi, j'ai des exemples comme ça et j'ai toujours fait très attention à ce qu'on n'aille pas au bout d'une forme de souffrance et d'acharnement. C'est juste de verbaliser assez rapidement que du coup, on s'est peut-être trompé dans le recrutement, parce que le recrutement, c'est quand même la base de beaucoup de choses. Et qu'aujourd'hui, on veut un taf, on y va, et qu'on se sent confronté à un truc, j'arrive pas à m'intégrer dans l'équipe, j'arrive pas à ça. Alors, avec tout le meilleur management de la planète, on le changera pas, ce management. Par contre, nous, en tant que manager, il faut qu'on identifie que la personne, elle n'arrive pas à rentrer dans l'entreprise. Et là, comment lui expliquer? Moi, c'est des moments qui ont été compliqués humainement pour moi, parce que c'est tellement important que la personne ne se fragilise pas dans une structure qui ne lui correspond pas. Il y a des choses qui sont pas, qui matchent pas. On se marie, on divorce. Cherchez l'erreur. Il y a des divorces qui se passent bien, il y a des divorces qui se passent mal. Faire en sorte que les divorces se passent le mieux possible et ne pas attendre le point de rupture pour après se détester, partir avant. C'est un peu mieux. Mais voilà, ça c'était aussi... On ne peut pas adapter notre façon d'être de manière individuelle quand on est manager. Il faut qu'on adapte une posture pour le collectif. Et forcément, parfois, l'individuel, il reste sur le côté parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais il faut quand même être vigilant d'identifier et de verbaliser que nous aussi, on ne peut pas aller plus loin que ça et ne pas laisser pourrir la situation.
Et c'est exactement ça, le rouage. Ouais, c'est-à-dire que quand on équipe, et c'est l'identification rapide de se dire, moi j'ai eu cette problématique-là où quelqu'un effectivement se sentait très mal, qui était elle-même en souffrance, etc., dans un autre service, qui ne le disait pas, mais on sentait que ça allait de plus en plus mal. Et c'est de l'identifier, d'avoir après... C'est aussi le courage du manager que d'aller dire... Et ça, le courage, ce n'est pas sur la DRH qu'il faut compter, c'est toujours sur toi-même. Donc, c'est de se dire, faut peut-être pas attendre un entretien de fin d'année, faut provoquer un entretien avant, disant, je sens que ça ne va pas. Et là, c'est d'humain à humain. Et ce n'est pas de manager à salarié, c'est moi d'humain à humain, je sens que ça ne va pas. Ça, il y a quelque chose qui frotte, ça va pas, essaye de travailler là-dessus. Là, ça prend beaucoup d'énergie parce que comme la nature humaine est comme ça, on préfère quand ça va bien que quand ça va mal, et c'est l'identifier, mettre des mots justes et parfois se dire effectivement, et moi aussi je l'ai mal vécu à certains moments, on n'est pas fait pour être ça ne va pas, l'organisation ne va pas, elle ne te convient pas. Essaye de changer une organisation qui change d'organisation, ça ne te va pas.
Et dans le management aussi, ou sur des postes clés dans les entreprises, régulièrement, ce sentiment d'être seule. Parce que nous, on doit, enfin, en tout cas, moi, je faisais en sorte d'essayer d'écouter, mais moi, de rien laisser paraître. Et moi aussi, il y avait des matins, c'était compliqué. Et moi aussi, à côté, il pouvait y avoir des choses qui me perturbaient ou qui étaient douloureuses à gérer au quotidien. Et du coup, on se retrouve à se mettre dans une posture et de s'anesthésier un peu. Et c'est vrai que cette solitude, parfois, assez pesante, je ne sais pas si tu as géré ou en tout cas, tu as eu ce sentiment parfois d'être seule.
Affreusement. Affreusement, surtout quand je parlais du crash qu'on a eu quand il y a eu la fusion et où là, quand on fusionne deux grosses structures, forcément, il y a trop de salariés sur un même poste. Donc, il faut faire de l'écrémage. L'écrémage, ce n'est pas de l'humain qui le fait, c'est un algorithme. L'algorithme, on ne l'arrête pas. On ne sait même pas à quoi il ressemble. On a des données, vaguement. Alors, si elle est plutôt ci, s'il est plutôt comme ça. Mais tout ça, il faut mettre des gens dans des petits... C'est même plus des tiroirs, c'est des toutes petites boîtes. Et s'il rentre, mais il y a un orteil de trop, il ne rentrera pas dans la petite boîte. Donc, il va falloir qu'il gicle. Et ça, nous, c'est à nous de nous en occuper. Mais moi, je n'ai rien voulu de ça. Je n'ai pas voulu. Moi, on ne m'a pas embauché pour ça. Moi, dans ma fiche de poste, on n'a jamais dit « tu vas jeter des gens comme ça ». Et je me souviens d'une scène particulièrement difficile où on était au 30e étage de l'hôtel de la Porte Maillot. Et au 30e étage de la Porte Maillot, tu as une vue magnifique sur tout Paris. Et là, tu es en train de dire à des gens, alors parfois qu'ils étaient déplacés, tu as un gars d'Amiens, je lui ai dit « tu sais, Châteauroux, c'est vachement beau ». Ouais, mais je ne veux pas aller à Châteauroux. T'as pas le choix. Mais moi, je n'avais pas le choix de lui dire ça. Et je n'ai pas choisi. Et c'est là où je me suis dit, moi, je ne corresponds plus.
Ouais.
Donc, il faut que j'arrête. Donc, je ne veux pas cautionner ce genre de truc. On ne m'a pas missionné pour ça. Ma lettre, moi, comme mon contrat, je l'ai signé, eux qui sont très forts dans les contrats, qui relisent tous les contrats. Moi, mon contrat, il ne disait pas ça. Donc, j'ai refusé, je suis descendue du 30e au zéro, j'ai dit, c'est stop, je ne le fais pas.
Et voyez, enfin, on dit être un bon manager, il faut être un bon manager. Et du coup, encore une fois, je ne savais pas que ça allait prendre cette tournure sur le management, comment être le meilleur manager de la planète. Mais en fin de compte, c'est juste impossible. Et derrière chaque manager, je reprends l'exemple que tu disais, on ne te dit pas merci, mais c'est parce qu'on ne lui a pas dit merci, etc. Et donc, il faut faire, il faut faire preuve aussi dans les équipes d'un peu de tolérance et de comprendre que derrière notre manager qui prend des décisions qui ne sont pas forcément adaptées à vos attentes à l'instant T, derrière, il y a une femme, un homme... Il y a un cœur qui bat et que les managers ne sont pas tous des pourris. Il y a de très bons managers qui deviennent même des mentors. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont managé avec une finesse et une intelligence particulière. Et c'est ce qui m'a fait progresser et faire la femme professionnelle que je suis aujourd'hui. Mais j'en ai rencontré. J'ai eu cette chance.
Ouais, moi aussi, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui, justement, faisaient passer énormément d'humains dans leur management, qui disaient, effectivement, on en demande beaucoup, mais toi, là-dedans, tu te situes comment ? Comment est-ce que tu le vis ? Comment est-ce que ta vie n'est pas trop difficile pour tout ce qu'on te demande, etc. ? Qui passaient au moins un quart d'heure de la conversation à me demander des nouvelles, les enfants, comment ça allait, etc. Parce que justement, cette part d'humain comptait beaucoup. Alors que certains arrivent avec les liasses, le portable sous la main, en disant « bon voilà, on en est là, on en est là ». Et géographiquement, toi, au milieu de tout ça, tu te situes où ? Bah, tu ne te situes pas. Et ça, ça a été une grande chance, et effectivement, d'avoir des gens extraordinaires, extraordinaires.
Mais c'est pour ça qu'il y a une mutation. Notre génération, la Y, a vu, malgré tout, ce manque d'humanité, de prise en compte des sentiments, etc., du bien-être de tout le monde dans l'entreprise, pas que de ceux qui exécutent directement ou quoi. Et les nouveaux, donc notamment via le débat d'hier, hein, ils étaient beaucoup sur le bien-être, etc., comme tu en as explicitement parlé dans ton sondage. Parce qu'en fait, manager ou pas, on reste tous des humains et on a le droit, même en étant manager, de ne pas se sentir bien, etc. Alors le cacher ou pas, ça c'est tout dépend effectivement comment tu veux te positionner, mais aujourd'hui on ne serait pas jugé, un manager en tout cas, je fais encore un cliché, mais ne serait pas jugé si un matin il arrive et dit écoutez, bon, je vais pas rigoler aujourd'hui, mais on va bosser, etc. Mais voilà. Alors qu'à l'époque, je pense que vous disiez ça, oulala, c'était le oh, mais qu'est-ce qu'il nous dit, ou il faut pas le dire, ou... Enfin, on veut vraiment... En fait, on est tous des êtres humains, au final. C'est juste que chacun a sa mission dans l'entreprise, mais tout le monde a des sentiments.
Ah ben oui, tout le monde a des sentiments, tout le monde peut les partager, mais il y a des gens qui ne le souhaitent pas aussi. Non. Et ça, c'est pas critiquable non plus. Il y a des gens qui se sentent fragiles de se livrer et qui sont, par exemple, mieux dans un rôle plutôt hiérarchique, simple, plutôt que de se livrer, de faire part de leurs failles, etc. Moi, par exemple, j'ai l'exemple de mon mari qui était manager, mais avec une faille personnelle. Et il ne souhaitait pas qu'on parle de cette faille personnelle que tu connais, parce qu'il préférait rester dans son statut de manager. Ouais. Et ça, c'est compréhensible aussi. Bien sûr, non, mais... C'est compréhensible aussi. Là où je voulais aussi en venir par rapport au débat d'hier, du bien-être dans l'entreprise, etc., etc., je dis, ouais, bravo, 100% d'accord, etc. Mais, il y a un mais, c'est la bonne conscience. La bonne conscience, c'est qu'il y a plein de boîtes. Moi, je l'ai vécu. On te paye des séminaires au bout du monde. Moi, j'ai passé des 10 jours de séminaires au bout du monde. C'est la bonne conscience.
Ah oui, bah oui. Non,
parce qu'au retour, ouais. Oui, t'as l'effet boomerang, il est pas mal non plus. Hein. Ouais. Donc, ça veut dire que pendant ces séminaires, bien sûr, c'est comme une secte, hein, on te fait passer plein de choses, etc. Et ça circule, et ça circule. Mais ça, on va les mettre dans un cadre idyllique. Ils vont s'éclater, open bar, plonger en mer rouge. Mais c'était le paradis sur Terre. Mais le paradis sur Terre, c'est l'enfer à l'arrivée. Hein.
Ouais. Ça a quand même évolué.
Bah parce c'est ça que ce que je dis, on a vu.
On a eu cette époque-là, comme les team building, il fallait sauter en parachute, il fallait sauter à l'élastique, ça, la cohésion d'équipe. Alors ça, c'est un peu arrivé avec les États-Unis, le management à l'américaine. Donc bon, en même temps, aujourd'hui, moi, j'entends dire que dans certaines start-up incroyable. On a le baby-foot, mais on a aussi des forfaits de psy à l'année payés par la boîte. Il faut se poser un peu les bonnes questions.
C'est le placebo du séminaire, quoi.
Alors, ça peut être ça, mais ça peut être aussi ça, la bonne conscience. C'est-à-dire qu'on a conscience qu'on va vous en demander beaucoup. C'est-à-dire que vous allez avoir un baby-foot, mais le joueur du baby-foot, c'est vous, au milieu. C'est-à-dire que la balle, c'est l'extra-balle, elle est tous les jours. Hein. Et c'est ça qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'en mettant un baby-foot, on peut jouer de toi.
Bah oui, mais quand c'est dit explicitement, tu peux l'entendre et que tu l'acceptes ou pas.
C'est jamais dit, c'est implicite, c'est implicite. Mais c'est pour ça que...
On va jamais le dire. Parce que la personne qui a mis le baby-foot, elle pense qu'elle est dans la bonne méthode de management. Et certainement que c'est adapté pour certaines personnes, mais pas pour toutes personnes. Oui. C'est pas pour tout le monde. C'est
non, ça, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai... on l'a bien entendu hier. On ne veut plus être des pantins dans une entreprise. C'est vraiment... si je schématise, ça fait un peu pantin. Je te mets ton baby-foot. Enfin, on s'en fout du baby-foot. Déjà, tu travailles. T'es pris dans ton travail, tu vas jouer. C'est comme tout, quand t'as un nouveau jouet, tu joues avec. Et au bout d'un mois, au bout de deux semaines, t'arrêtes de jouer avec. Donc, non, mais c'est vrai.
En fait, je pense qu'aujourd'hui, le meilleur des baby-foot, c'est la reconnaissance de son emploi.
Voilà.
Ça, c'est le meilleur des baby-foot. C'est-à-dire que je te reconnais...
S'épanouir dans son travail.
Exactement. Je te reconnais pour tout le travail que tu fournis.
Parce qu'il y a une reconnaissance.
Et ça, c'est le meilleur des baby-foot. Et ça sera le meilleur des psys. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as un manager qui est capable de s'asseoir à côté de toi et de te dire c'est super tout le travail que tu as accompli, etc., et que demain tu accompliras, c'est très bien. Et plutôt que de se dire bah, je vais te mettre du psy parce que je sais que je t'en demande beaucoup, etc., etc. Moi, j'ai eu ça aussi, hein, des séances de psy, de machin, de thérapeute. Mais tu vas voir, ça va aller mieux. Non, ça ne va pas mieux. Parce que quand je sors du psy, le truc, il est pareil. Parce que tu as ton téléphone, il y a 50 messages dessus.
Bah oui.
Donc voilà, ça ne change rien. Donc, c'est-à-dire que là, ce qu'on veut, c'est... Enfin, je pense que ce que j'ai analysé un peu d'hier, c'est de l'immédiateté. C'est-à-dire que je m'assois à côté de toi, je prends le temps de m'asseoir à côté de toi et de dire oh, « c'est dingue tout ce que tu arrives à faire ». C'est voilà, j'ai beaucoup d'espoir pour ce projet pour toi. Je vais te donner ce projet parce que je crois en toi. Voilà, des choses en fait qui paraissent tout simples à dire, mais qui parfois sont pas si simples que ça à faire. Surtout que le même manager, personne ne s'assoit à côté de lui. Encore une fois.
Oui, mais c'est pas parce qu'on te fait pas les choses à toi que tu ne peux pas faire ce que tu faire de tes propres valeurs, etc. Enfin, tu vois.
Ouais, mais ça veut dire que. Ça veut dire que tu, dans l'entreprise, tu autorises...
Dans un gros groupe, c'est compliqué,
j'entends. Non, pas dans un gros groupe, même dans une petite structure, c'est que tu prends du temps. C'est-à-dire que je vais te parler, par exemple, de l'entreprise de mon fils. Donc, ils ont une brasserie artisanale, ils font de la bière. Ils sont au milieu des fûts, au milieu de la flotte, les pieds avec des bottes en caoutchouc, etc. Mais il faut qu'ils managent des équipes en même temps. Mais c'est quoi l'urgence? C'est qu'il y a un truc qui bouillonne et qu'il va falloir sortir le malt, etc. Va falloir aller chercher des sacs de 50 kilos, va falloir faire ci, va falloir faire ça. Mais qui va se poser à un moment donné pour dire « Waouh, le truc qu'on a fait, c'est top !» Et c'est de la vraie volonté derrière. C'est-à-dire qu'il faut s'autoriser le temps. D'abord, il faut y penser. Il faut avoir le truc dans le cerveau qui dit « Tiens, à ce moment-là, il faut que je dise quelque chose parce que c'est urgent, parce que je le vois transpirer, je le vois, il a mal aux pieds, je le vois, il est en... » La souffrance physique, elle se voit. La souffrance mentale, elle ne se voit pas. Et c'est là où il faut qu'on soit d'autant plus attentif. Et on ne pense pas aussi aujourd'hui, et c'est je voulais en parler, c'est le télétravail. C'est-à-dire que là, c'est de la souffrance à distance.
L'isolement.
Ah oui.
L'isolement.
Ouais, complètement.
Et le management à distance, moi, c'est ce que j'ai connu tout le temps puisque j'avais des équipes sur le terrain. Et quand je prenais mes fameuses formations de management formidables, extraordinaires, on me disait, mais si, alors quand vous avez un collaborateur, vous le voyez moins souvent à la machine à café, vous voyez qu'il il détourne la tête. Non, mais moi, je ne le vois pas. Donc, il n'est pas à la machine à café, il ne détourne pas la tête. Moi, quand je l'essaie au téléphone, il me dit, ouais, super, ça va. Mais moi, je ne sais pas, derrière le super, ça va, ce qu'il y a. Donc, il faut que je questionne, il faut que je prenne du temps. Etc. Et là, en télétravail, il y a un vrai, vrai boulot. C'est-à-dire qu'il faudrait faire des trames de management qui existent. Donc, moi, je fais du coaching de dirigeants. Donc, je fais ces trames de poser la bonne question, de trouver le bon levier de réponse, de dire où est la sincérité de la réponse. C'est pas aussi facile. Et toi, ça va? Oui, ça va. Le oui, ça va, ça veut dire fais pas chier, j'ai pas envie d'en parler.
Exactement.
Et là, c'est grave. C'est que si j'ai pas envie d'en parler, c'est peut-être plus grave que ce que je pense. Et là, dans le télétravail, il y a du boulot. Il y a vraiment un gros boulot.
Tu vois, tu nous laisses sans voix.
mais elles sont là.
Ouais.
Alors, le télétravail, dans le management, il a fallu l'intégrer. C'est un peu comme... Je vais revenir mettre de l'huile sur le feu. C'est comme... Quand les réseaux sociaux sont arrivés, il a fallu apprendre. Et l'IA, prochain épisode sur l'IA. C'est vrai qu'à un moment donné, le télétravail, il est arrivé de plein fouet avec le Covid. Donc, ça a été vraiment une bouée de sauvetage aussi, parce qu'on a pu continuer un peu à bosser. Et forcément, c'était très bien au début. Sauf que du coup, ça s'est instauré et qu'à un moment donné... l'isolement, il est juste il est terrible parce que si on a des tâches très dans l'exécution, etc., il y a quand même l'appartenance à l'entreprise, il y a la relation sociale, il y a le fait, on a tous connu ça hein, pendant le Covid, on s'habillait plus, on se maquillait plus.
L'estime de soi.
L'estime de soi. Notre vie, elle est enfermée dans notre maison ou appartement et elle se réduit à ça. Alors, les visios sympas, il y a des émotions qui peuvent passer à travers l'écran, mais évidemment, non. Et il y a des gens qui ne se sont pas relevés hein, du télétravail, hein, avec une vraie, vraie souffrance. Alors, après, le manager qui a géré ça, on ne lui a pas donné les clés non plus. Hein.
On l'a. Alors on là, c'est typiquement quelque chose à situation exceptionnelle, ouais. Décision exceptionnelle. On reprend le boulot, on s'y remet, sans penser que dans la cellule de chacun, dans l'appartement de chacun, il pouvait y avoir un problème aussi. Hein. Et ça, on ne l'a pas du tout maîtrisé. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils se sont retrouvés dans des placards pour travailler parce qu'ils n'avaient pas le choix.
Ouais.
Parce qu'à côté, il y a deux gosses, il faut bien que ça continue à vivre à côté. Donc, ça veut dire que tout ça, ça a mis... Et d'ailleurs, certaines entreprises ont surfé sur la tendance en disant, on vous fait des petits bureaux, des petits machins, des petites cellules, des petits trucs, ouais, super. Mais bon, moi, ma petite cellule, dans mon 40 mètres carrés, déjà, elle ne tient pas, ma petite cellule.
Mm-hmm.
Donc, voilà. Donc, ça veut dire que déjà, pour des gens un peu fragilisés, dans le contact, dans la relation, dans le, c'est la débâcle, très très rapidement la débâcle. Et ça, c'est aussi la part du manager, c'est que manager ce que je ne vois plus, ouais. C'est quelque chose d'assez horrible.
Mmh.
Et bon, j'ai été appelée par plusieurs entreprises pour travailler sur ce sujet, pour dire mais comment faire quand on ne voit pas les gens, quand on ne sonde plus, quand on n'a plus le contact physique avec les gens. Et c'est vraiment et c'est valable aussi pour les managers qui étaient dans le même état.
Bien sûr,
on demande à des chefs de service de prendre des décisions alors qu'ils ne voient plus les gens, qu'ils ne voient plus la faisabilité. Est-ce que combien de travail tu es capable de fournir? On ne sait plus.
Alors, moi, j'ai une question. Est-ce qu'un bon manager, est-ce qu'en achetant des livres, on devient un bon manager? Est-ce qu'en se formant et en faisant des écoles de management ou des formations de management, est-ce que ça suffit? C'est comme être parent. Est-ce qu'être des bons parents, ça s'apprend dans les livres?
Moi, je crois pas. Je suis très déçue parce que tu ne m'as pas dit un bon tuto. Toi, alors que toi qui travailles dans les réseaux sociaux maintenant, non, bien sûr que non. Non, bien sûr que non.
Mais comme tout, hein, sur le terrain.
Je ne suis pas certaine comme tout. La comptabilité, c'est de la comptabilité.
Si tu ne pratiques pas, tu ne sais pas.
Mais,
moi, je pense que dès qu'il y a de l'humain dedans,
ça s'apprend pas dans les...
c'est fini. Ouais. Parce qu'il faudrait un livre de 4072 pages pour avoir 4072 portraits qui soient croisés par les 5870 de chaque situation. Donc, en fait, à part des annuaires géants, on n'aurait pas de livre pour expliquer tout ça. Ce qu'on peut donner, c'est une clé. C'est une boîte à outils où tu vas essayer d'utiliser une clé. C'est le prochain petit pas que tu peux faire pour traiter tel ou tel problème. Mais il faut que tu aies le contact avec la personne, la situation, ce qui est attendu, les outils que tu as en possession. Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais, avec qui tu as l'habitude de travailler, dans quel contexte? Donc c'est tellement, tellement personnel. C'est pas, pour reprendre la passion de Mélissa, c'est pas du prêt-à-porter, c'est de la haute couture de chez haute couture. C'est-à-dire que chaque cas est tellement personnel que le bouquin, il va te donner une vue d'ensemble sur tout ça. Il va te dire, alors, si vous avez tel problème, essayez ça. Ouais, bon, d'accord. Mais je pense que ça ne s'apprend pas. Ça se vit.
Pas dans, exactement. Ça ne s'apprend pas dans les livres. Ça se vit. Et il faut juste aimer l'autre, en tout cas. Mmh. Aimer l'autre dans certaines situations de management d'entreprise. Parce que certaines entreprises ont besoin de managers avec des profils beaucoup moins tournés vers l'humain, plus tournés vers le résultat, etc.
La stratégie.
Dans la stratégie. Et chaque personne a sa place. Et vraiment, Il faut être d'une humilité absolue, d'être dans une écoute incroyable. Et c'est pour ça que je trouve, en tout cas moi, ça sera mon petit mot de la fin, que je trouve que manager, c'est vraiment dans l'entreprise le poste le plus difficile.
C'est le poste, je disais la pierre angulaire, parce que c'est là-dessus que ça repose. C'est-à-dire que le manager, sans manager vraiment dans une entreprise, on peut avoir des visions de patron, des souhaits de salariés, mais celui qui va faire lier la sauce entre tout ça, c'est le manager. Donc effectivement, il faut qu'il soit capable d'écouter le haut, d'écouter le bas, d'écouter sur les côtés, de ses côtés lui-même. Ça fait vachement d'oreilles. Ça fait beaucoup, beaucoup de sons différents. Et il faut qu'il soit en harmonie avec tous ces sons. Et c'est tout ça qui est difficile. Et en tout cas, être un bon manager, pour moi, c'est savoir être capable d'être dans la maîtrise d'un maximum de choses pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'exigences. Mais c'est passionnant.
Complètement d'accord.
Donc, du coup, ouais. Vous n'aurez pas eu de solution miracle pour devenir un bon manager. Mais là, on espère qu'on vous a donné une vision plus douce d'un manager. Encore faut-il que vous ne vous entendiez pas avec votre manager, etc. Mais plus douce. Derrière chaque manager, il y a un être humain.
Bah, ça peut remettre en question justement certaines personnes qui écoutent le podcast et qui ont des altercations. Oui, c'est ça, je bug sur le mot, mais avec justement leur manager, etc. Et qui vont se dire, ah, mais finalement, je n'avais pas pensé à ça. Au fait que lui aussi rencontre des problématiques. Tu nous avais expliqué justement, pendant l'un de nos déj avec Véronique, le fait d'avoir proposé l'échange de postes, justement pour se mettre dans la peau de
vie, son ma
collaborateur.
Vie.
Ben, voilà.
Vie ma vie, oui.
Et donc bah, finalement, nos échanges servent à ça aussi. À ce que certaines personnes se reconnaissent ou se remettent en question en se disant, effectivement, je suis peut-être un petit peu trop virulent ou... en tant que collaborateur, hein, pas forcément sur la position du manager, vraiment dans les deux sens, et se remettre en question.
En fait, il faut toujours éviter l'altercation et favoriser l'interaction.
Mais que c'est joliment dit.
Bah, l'humain, les relations, la communication.
C'est ça.
On ne fait rien sans com. Mais c'est vrai. Hein.
Mais je suis d'accord à 100%.
Un mot de la fin, Véro ?
Ah bah, je pensais que je l'avais dit.
Non, parce que tu as fait un paragraphe de la fin.
C'est pas vrai. Et ben voilà, j'espère que je vous aurai donné envie soit de communiquer plus avec votre manager, soit de devenir un manager à l'écoute de vos équipes, de devenir un manager épanoui pour faire une équipe épanouie et de se faire plaisir.
Ouais.
Parce que se faire plaisir, il n'y a que ça de vrai dans la vie. Qu'on l'en soit, à quel poste où l'on soit, l'essentiel, c'est d'aimer ce que l'on fait. Donc voilà, alors, c'était le mot de la fin.
C'est un deuxième paragraphe, mais...
On n'était pas filmés, mais Véronique parlait et Mélissa et moi, on dodelinait de la tête. Oui.
Ouais.
En tout cas, moi, j'ai adoré ce moment.
Oui.
Merci. Bah, mais je l'ai dit, moi. J'ai dit plein de fois le mot de la fin. Non, j'ai adoré ce moment. Le mot de la fin, c'est l'humain.
L'échange. Parce que vous ne voyez pas, mais elle me regarde toutes les deux.
Et l'écoute.
L'échange et l'écoute, oui, mais j'ai dit... Ah, mais je voulais dire l'échange et l'écoute, ouais.
L'écoute, ouais, l'écoute. Mais parfois, on est... moi, j'ai adoré cet échange. Encore une fois, on n'avait pas imaginé de le prendre dans ce sens-là. Et à chaque fois, quand on fait les choses naturellement et à l'intuition, eh ben, je suis certaine que vous allez l'entendre et que vous allez avoir un plaisir fou d'écouter notre podcast, comme moi, j'ai eu un plaisir fou d'échanger avec vous.
C'est voilà. Pas, c'est partagé.
Partagé.
En trois.
En trois.
À bientôt.
Oui, à bientôt.
Au revoir, à très Véronique. Bientôt.
Merci.
Merci.
Avec plaisir.